Pendant que Marc-André installe sa présentation, juste quelques mots. J'ai déjà commencé à introduire tout à l'heure. Donc Marc-André est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect pour son travail, certes, mais aussi pour la capacité, je dirais, la facilité qu'il a à transmettre son savoir, à la fois comme un scientifique fondamentaliste, mais aussi comme quelqu'un qui sait très très bien et au sens noble du terme vulgarisé. Et c'est d'ailleurs une de ses activités favorites, je dirais. À preuve, le livre qu'il a écrit récemment. Il est professeur au Muséum d'histoire naturelle. C'est un spécialiste de la mycologie et en particulier de l'interface entre champignons et racines de plantes, donc dans ces symbioses dans le monde végétal. Il a énormément de publications, énormément de reconnaissance. Il est professeur aussi invité ou associé dans d'autres universités, en Pologne, au Brésil. Donc, son compétence est reconnue très internationalement. Et puis, c'est aussi quelqu'un, peut-être il nous en dira deux mots à la fin, je te laisse la porte ouverte, qui a des convictions très, très fortes. Vous savez qu'on passe en ce moment dans une période un petit peu difficile à des tas de niveaux en matière de révision, de réforme des enseignements. Et il y a une petite épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête à partir de la classe de seconde qui serait, au fond, pour simplifier, la suppression des sciences naturelles. Et donc, peut-être tu voudras nous en dire quelques mots parce que c'est un domaine où Marc-André s'est vraiment exprimé très fortement et en fait, probablement de plus en plus fortement, de façon à pouvoir enfin se faire entendre. Je pense que ce serait une catastrophe. J'ai l'impression, en entendant vos rumeurs, que vous partagez notre avis. Mais si tu peux en dire un petit mot à la fin, je pense que ce sera le bienvenu. Merci, Marc-André.
Alors, merci de cette invitation. Je dois dire que j'ai beaucoup appris de toi et qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis plus ou que j'ai eu envie de raconter à mes élèves ou même d'écrire d'ailleurs à la suite de séminaires que j'avais suivis. Et donc, il y a une forme d'émotion et de reconnaissance dans le fait d'être invité ici à parler après toi et d'un modèle qui finalement nourrit les précédents puisque tous ces animaux, il faut bien leur donner un peu de quelque chose à mâcher, souris ou fourmis d'ailleurs. Et je voulais d'abord introduire la plante en vous rappelant qu'elle est microbienne ou microbiotique par essence. Tout le monde est d'accord que ceci est du maïs, mais en réalité la chose est beaucoup plus subtile. Et tout à l'heure, tu présentais au début de ton exposé le fait que quand on zoome sur ces cellules, on y trouve des composants qui sont des composants intégrés des bactéries, intégrés de façon stable et depuis des temps beaucoup plus longs que ceux, par exemple, des Buchnera, des pucerons, mais exactement de la même façon, intégrés et de façon transmissible. Les plastes, où est réalisée la photosynthèse, équivalent aux plantes leur couleur verte, sont d'anciennes cyanobactéries. En fait, même ce sont des cyanobactéries, mais qui vivent dans les cellules, et les mitochondries sont des alpha-protéobactéries qui permettent la respiration. Alors, c'est quelque chose qui est connu anciennement, mais qui quand même revisite un peu la plante. Quand vous regardez le maïs, vous pouvez le placer dans l'arbre du vivant en disant, le maïs, tous ces gènes, les gènes qui sont présents dans le noyau du maïs, c'est-à-dire dans la zone où se trouvent les chromosomes du maïs, tous les gènes du maïs clament que c'est un eucaryote, que c'est quelque chose qui est proche finalement de l'homme, des levures, bref, qui appartient au groupe des eucaryotes. Mais lorsque l'on regarde l'ADN qui se trouve dans les cyanobactéries que sont les plastes ou dans les bactéries que sont les mitochondries, on s'aperçoit que finalement le maïs, il y a une partie de lui qui se place à côté des cyanobactéries, une partie de lui qui se place à côté de certaines bactéries. En d'autres termes, c'est bel et bien une chimère. Et d'ailleurs, le maïs, vu en tant que tel, n'a pas de position sur l'arbre du vivant. Il en a trois. Et on voit bien que la représentation en arbre nie quelque peu cette réalité qui est que vous observez là un consortium symbiotique déjà où il y a deux microbes, l'un assurant la respiration, la mitochondrie, l'autre assurant la photosynthèse, le chloroplaste. Et ça, c'est très structurant car si l'on regarde, si on imagine à quoi ressemblaient les ancêtres du maïs, pour qu'ils aient finalement dans leurs cellules une cyanobactérie, il faut qu'ils l'aient absorbée. Et ils devaient ressembler sans doute à quelque chose comme ça. Alors j'espère que ça va marcher. Média non trouvé. Bon, voilà. Je vais vous le retrouver. Il faut imaginer quelque chose qui consommait, des bactéries cyanophotosynthétiques ou des algues d'ailleurs. Là, vous avez des amibes qui consomment, vous voyez, des petites algues. Hein. Ces ancêtres-là ne pouvaient pas avoir de parois parce que sinon, ils ne pouvaient pas absorber leur proie. Vous avez ici une petite paramécie ciliée où vous devinez en cours de digestion des algues. Et vous allez voir ce mode de nutrition qu'ont beaucoup d'organismes actuellement encore, qui absorbent dans leurs cellules, regardez, qui incorporent des algues, des bactéries photosynthétiques. Et c'est l'histoire d'une indigestion, en fait, que l'acquisition du plast. C'est-à-dire qu'à un moment, un de ces organismes n'a pas digéré ses proies et les a laissées se multiplier à l'intérieur de lui-même. Vous les avez ici, vous en avez encore un qui est en train de se nourrir d'algues. Et en réalité, pour que ce soit possible, il fallait qu'il n'y ait pas de paroi pour deux raisons. La première, c'est que si vous êtes emballé par une paroi, vous ne pouvez pas absorber les proies, mais en même temps, vous ne pouvez pas non plus changer de volume. Or, aujourd'hui, toutes les cellules végétales sont non seulement vertes à cause des plastes, mais aussi emballées d'une paroi. Et vous voyez que cette paroi, finalement, n'a pu émerger que secondairement, après que l'intégration d'une bactérie photosynthétique ait permis à la cellule d'obtenir sa nourriture de l'intérieur d'elle-même, sans plus avoir à absorber autre chose et sans plus avoir à changer de volume à l'occasion de ces phagocytoses. En d'autres termes, la paroi n'a pu apparaître que secondairement après que cette cyanobactérie soit intervenue. Ce qui fait que la paroi, qui est quelque chose qui est fondamental dans la cellule végétale et qui assure aujourd'hui le port dressé du végétal, c'est quelque chose qui émerge secondairement après la photosynthèse, donc après une acquisition microbienne. Alors ça, c'est intéressant. Et en plus, il y a dans la paroi de la cellulose, il faut savoir que chez les plantes, la cellulose provient en fait, elle est synthétisée par une protéine qui est dans la membrane de la cellule, une protéine qui est en fait un héritage qui est maintenant codé par des gènes nucléaires, mais qui est en fait une récupération d'un gène de cyanobactérie. Donc la paroi a non seulement été son apparition en tant que capsule protectrice et assurant le port du végétal a été possible après le plast, mais en plus, un des composants de la paroi est une récupération d'un composant qu'utilisaient les lointains ancêtres libres de ces plastes. En réalité, les gènes qui sont passés des plastes, donc des cyanobactéries qui constituent les plastes, vers le noyau sont nombreux. Et aujourd'hui, dans une plante, vous voyez que le pourcentage de gènes dans le noyau de la plante, qui sont des héritages de gènes transférés du plast au noyau, est énorme. Vous voyez que 8 à 12% des gènes présents dans le noyau d'une plante, comme Arabidopsis ou le riz, eh bien, 8 à 12% de ces gènes sont en fait des gènes issus du plast. Donc la facture de la plante est très profondément microbienne. Mais, c'est un effet de manche, parce que tout ça s'est passé il y a longtemps. Et aujourd'hui, ni les mitochondries, ni les plastes du maïs ne vivent librement. Reprenons le maïs pour du maïs, et arrêtons de financer en regardant de près les cellules, et voyons voir maintenant la couche microbienne qui entoure le maïs lui-même. Alors effectivement, le maïs, ou n'importe quelle plante, est densément colonisé de microbes. Vous avez ici un exemple qui vous montre toute la diversité de bactéries ou de champignons que l'on peut trouver par exemple autour de la racine. En fait, la plante détermine plusieurs compartiments au niveau de ses racines qui sont colonisables par des microbes. Vous avez à partir du sol, une zone de sol extrêmement influencée par toutes les sécrétions racinaires, ce qu'on appelle la rhizosphère. Vous avez la surface de la racine, où se trouvent d'ailleurs mes bactéries et mes champignons sur ces images, qu'on appelle le rhizoplan. Et puis il y a l'intérieur de la racine, le compartiment racinaire lui-même. Et ces compartiments sont densément colonisés. On sait aujourd'hui identifier ces microbes par l'ADN qu'on peut extraire de ces différents compartiments. Et vous voyez qu'il existe un très très grand nombre d'espèces de bactéries, de champignons ou d'organismes filamenteux proches morphologiquement mais pas évolutivement des champignons qu'on appelle les oomycètes. Il y a une grande diversité. Une diversité qui d'ailleurs va en décroissant de l'extérieur du sol vers des compartiments de plus en plus internes. Et on retrouve un motif qui était présenté dans l'exposé précédent, qui est cette filtration à partir du sol. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'élus au fur et à mesure que, à partir du sol, les microbes s'avancent vers l'intérieur. Alors, On a donc une diversité qui est grande, mais qui va en s'effondrant de l'extérieur vers l'intérieur, mais elle n'est pas nulle à l'intérieur. Et si on regarde comment se place, oui, j'ai passé tout de suite à cette image-là, si on regarde maintenant la composition, alors on a ici des diagrammes qui sont simplifiés, où on met des points qui sont des échantillons de sol dont on a étudié la diversité, des échantillons de rhizosphère, dont ce compartiment de sol influencé par la racine et dont on a étudié la diversité, et puis l'endosphère qui est en fait l'intérieur de la racine. Là encore, on a des points qui correspondent à des échantillons dont on a étudié la diversité, et on les place dans un diagramme en deux dimensions, et ils s'y retrouvent d'autant plus près que leur composition microbienne est proche. Vous voyez que les échantillons de sol sont regroupés ensemble. Les échantillons de rhizosphère sont regroupés ensemble. Ils sont assez proches des échantillons de sol, mais ils sont différents. Il y a vraiment un tri. Ce n'est pas la même diversité. Et puis les échantillons d'endosphère sont regroupés ensemble. La diversité microbienne qu'on trouve dans la racine, elle se ressemble d'une racine à l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est différente de celle de la rhizosphère, même si proche, et très différente de celle du sol. Donc vous avez en fait des filtres successifs qui, comme dans l'installation des vibrios dans les calmars, va réduire la diversité. Voilà juste l'analyse réalisée sur le sol général et la rhizosphère en particulier. Vous voyez très bien, c'est proche, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Bien. Là, j'ai parlé des racines, mais il faut bien réaliser qu'il en va de même de tous les organes qui sont colonisés. Dans les feuilles, par exemple, il y a entre 10 et 100 espèces de champignons différents. C'est plus diffère dans des feuilles tropicales. Et il faut bien comprendre que ici, le végétal est très différent de l'animal à cause de cette paroi. Il est très difficile de glisser des bactéries entre les cellules animales sans les abîmer, car elles sont simplement limitées par leur membrane. Les cellules végétales sont encapsulées dans leur paroi. Et il est très facile de glisser des microbes dans la paroi sans léser, sans abîmer les cellules végétales. Et ce que vous voyez très bien ici avec cette image où on rend les champignons dans une feuille tout à fait saine, fluorescent, vous voyez qu'en fait, il y a plein de champignons qui sont lardés entre les cellules. La colonisation microbienne de la plante se fait cellule à cellule, ce qui est une grande différence avec la colonisation microbienne de l'animal, qui se fait dans des cavités particulières, l'organe photosynthétique, l'intestin, ou bien sur les surfaces, comme celle de la peau. Donc, microbiotique par essence, oui, car elle résulte de l'incorporation dans une cellule ancestrale d'au moins deux microbes, et parce qu'ensuite, ces cellules encapsulées dans leur paroi coexistent avec une diversité microbienne, fongique ou bactérienne, dans tout l'organisme. Maintenant, l'autre point dont je voudrais vous parler, c'est l'aspect de nutrition. En réalité, ce microbiote qui est présent au sein de la plante, il est important dans la nutrition et en témoignent les tentatives vaines d'introduction des pins dans les régions tropicales. Vous savez que les pins, chez nous, sont des plantes pionnières qui poussent très bien sur les pâtures ou les prairies abandonnées. On a essayé de les faire pousser en Amérique et en Afrique tropicale quand les Européens sont arrivés pour refaire des mâts, parce que ça fait de très beaux mâts, les pins. Et les pins étaient absents des zones en question, et dans ces zones tropicales, ils ne poussaient pas. Les graines germaient, les premières aiguilles jaunissaient, et ça crevait. On a réussi à contourner la chose en introduisant du sol d'Europe que l'on mélangeait au sol des pépinières. Et ce qu'on a introduit, sans le savoir à l'époque, car on est au début du 19e, c'est des champignons d'Europe qui sont présents dans tous nos sols, mais qui étaient absents de ces sols tropicaux. Regardez, on a ici ces filaments de champignons dans le sol qui interagissent étroitement avec les racines. Ils interagissent étroitement avec les racines en formant un organe mixte qu'on appelle une mycorhize, qui est en fait une racine gancée de filaments. Et ça, il y a ça sur tous les arbres forestiers des régions tempérées, ce qui fait que chez nous, planter un pin, ce n'est pas une gageure, mais que là-bas, c'était impossible. Et ce que révèlent les tropiques, c'est qu'en l'absence de ces champignons, un pin ne pousse pas. Ces mycorhizes qu'on appelle... On les appelle mycorhizes parce qu'il y a à la fois du champignon, myco, et puis de la racine, rhiza, sont d'un modèle particulier, l'ectomycorhize. Je vous en ai montré plusieurs ici, et sans rentrer dans les détails de cet aspect-là, vous devinez que parfois, elles modifient la morphogenèse de la racine. Regardez ici, ces racines colonisées par un lactaire délicieux, d'ailleurs, c'est ce champignon. Vous voyez que les filaments arrivent sur une racine qui est dichotomique, qui se ramifie beaucoup et qui devient dichotomique. C'est assez inhabituel pour une racine. Normalement, c'est une croissance terminale avec une ramification secondaire. Là, dichotomie. Vous avez ici une surramification qui est aussi typique de la mycorhize. On ne voit pas très bien le champignon parce qu'il est translucide, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une modification morphogénétique. Ces champignons-là, c'était tout simplement nos champignons forestiers, tous ces champignons qu'on ne trouve qu'en forêt. cèpes et bolets, amanites, truffes. Bon. Les truffes nécessitent aussi des arbres pour pousser. C'est pour ça qu'on plante des arbres pour récolter des truffes. Et cette interaction-là, c'est une interaction dont vous pourriez me dire qu'elle est assez anecdotique, car finalement, parce qu'elle intéresse les lignes tempérées, elle n'intéresse grosso modo que 5% des espèces de plantes. En réalité, elle n'est qu'une forme d'une association plus générale, et un grand nombre d'autres plantes sont, elles, associées à des champignons. C'est le cas des plantes non ligneuses de nos régions, et puis d'un petit peu toutes les plantes qu'on a sous les tropiques, qui sont associées à des champignons qui forment une mycorhize un peu différente, mais qui est tout aussi nécessaire. Revenons au maïs, d'ailleurs. Vous pouvez déterrer du maïs, et on voit très bien sur le maïs les... Alors souvent les gens me répondent les racines, mais ce n'est pas vrai, parce que quand on les colore de façon appropriée et qu'on les regarde au microscope, on voit que bien que là, rien ne soit présent extérieurement, elles sont aussi bourrées de filaments de champignons. Des champignons qui sont dans la racine et qui même parfois, regardez, font des ramifications qui pénètrent dans la paroi cellulosique de la racine. Donc une mycorhize un peu plus interne, moins visible, qu'on appelle l'endomycorhize, mais qui est également une mycorhize qui relie la racine à des filaments qui sont présents dans le sol. Donc c'est également une association avec des champignons du sol, sauf que là, la racine paraît nue en surface et que ce champignon est beaucoup plus discret. Ces champignons-là, ils font des spores dans le sol très abondantes, ce qui fait qu'on ne les voit jamais hors du sol, des spores qui sont très abondantes dans les sols ordinaires, dans la fraction 400 microns à 50 microns, et qui sont également vitaux. Simplement, comme il y a dans tous les sols de ces spores de champignons-là, eh bien, toutes les graines germent. Regardez par exemple ce qu'il advient au bout de 3 mois d'oignons plantés sur du sol stérile. Ils poussent très peu. Alors que, quand on réintroduit ces fameuses spores ici sur ce sol stérile, eh bien, voilà de l'oignon de 3 mois qui est normal. Là encore, la dépendance est vitale. Il y a donc, avec des champignons qui ne sont pas toujours les mêmes et qui ne font pas toujours la même association morphologiquement, un peu partout, chez 90% des plantes, en totalisant tous les types possibles de mycorhize, une association qui est un organe mixte racine et champignons et qui est vitale, venons-en au mécanisme, parce que la plante n'est pas capable d'exploiter la plupart du temps le sol elle-même. Dans les conditions ordinaires de fertilité des sols, l'eau et les sels minéraux proviennent du champignon, qui lui-même n'est pas capable de se nourrir sans la plante, car il en a besoin au moins pour ses sucres, pour ses vitamines, voire parfois également pour ses lipides. Alors, dans cette association, on peut se demander comment la chose est stable, car on pourrait se dire que pour la plante, la tentation est grande, disons, les mutations seraient très adaptées, qui permettraient de continuer à recevoir de la nourriture du champignon sans nourrir le champignon. Ou vice-versa, on pourrait imaginer les champignons qui viennent prélever des sucres sans donner grand-chose. Et on sait aujourd'hui comment cette association est stabilisée. Regardez cette manip qui consiste à faire pousser des racines dans un compartiment de sol et à leur donner du saccharose radioactif. Dans 2 autres compartiments, on met des champignons qui sont soit en présence de phosphate, soit en absence de phosphate. Ces champignons peuvent sortir par des micro-trous et aller établir une mycorhize sur ces racines. Ils ne sont pas capables d'exploiter directement le saccharose. Ces champignons-là ne peuvent exploiter que du glucose et donc seule la racine peut les nourrir en transformant le saccharose, qui est radioactif, en glucose. La racine a donc le choix entre une interaction avec un champignon qui ne peut pas lui donner de phosphate et un champignon qui peut lui donner du phosphate. Où va la radioactivité? Où va le sucre? Eh bien, vous voyez qu'au bout de quelques temps, le champignon incapable de donner du phosphore a reçu un peu de sucre, mais le champignon capable de donner du phosphore, car lui en a reçu beaucoup plus de sucre. Il a accumulé beaucoup plus de radioactivité. En fait, parmi les différentes associations entre les multiples champignons du sol et la racine qui se fait, la racine stabilise l'interaction et les échanges avec les champignons capables de lui fournir quelque chose. Réciproquement, si l'on met dans ce compartiment un champignon qui possède du phosphore et du phosphore rendu radioactif, et qu'on le laisse capable de coloniser dans 2 autres compartiments des racines qui ne peuvent pas sortir de leur compartiment et qui sont soit dépourvues de sucre, soit richement nourries en sucre. Où va le phosphore radioactif? À qui le champignon donne-t-il son phosphore radioactif? il n'y a pas beaucoup à la racine qui est incapable de lui fournir du sucre, car elle n'a pas le précurseur du glucose nécessaire au champignon, mais beaucoup plus dans le compartiment où le champignon, enfin beaucoup plus dans les racines où le champignon peut trouver du sucre. Là encore, les champignons peuvent intervenir, agir chacun avec de multiples racines et stabilisent les échanges avec celles des racines qui effectivement leur fournissent du sucre. Bref, ce choix, cette espèce de marché dans le sol où tout le monde rencontre tout le monde et où se stabilisent les échanges qui marchent, il permet de nourrir pas mal de champignons du sol, au passage, mais aussi de nourrir 90% des plantes incapables d'exploiter par elles-mêmes le sol. Ces associations ont donc un rôle important dans la nutrition des plantes, mais le microbiote des plantes a aussi un rôle protecteur. Revenons d'un peu plus près sur cette association ici, où, que je vous avais appelée une ectomycorhize, où le champignon fait une ganse la racine. Vous voyez très bien en coupe ici les filaments de champignons densément amassés autour de la racine, pénétrant entre les cellules les plus corticales de la racine. Bien. Si nous zoomons sur cette construction, nous voyons effectivement un manteau de filaments de champignons qui sont en quelque sorte un écran physique contre les toxines, contre les pathogènes du sol. Il y a donc, au moins dans l'ectomycorhize, un effet de protection. Mais il y a mieux. Regardez ces cellules ici de la plante. Vous voyez qu'elles ont... Le champignon a été coloré en bleu, mais le contenu des cellules a accumulé un petit peu de colorant bleu, ou un peu moins, ou presque pas. En fait, il y a une accumulation dans les cellules, d'autant plus qu'elles sont au contact du champignon, de tanins. Et je vous rappelle que les tanins sont des molécules qui coupent la digestion, parce qu'ils bloquent le fonctionnement des enzymes, aussi bien des microbes que des animaux. Par la présence du champignon, vous avez une induction d'accumulation de tanins dans les racines qui va les protéger contre d'éventuels agresseurs. Notez bien que les tanins restent dans ces cellules, que le champignon ne pénètre pas dans la cellule dans ce cas-là, donc il ne se trouve pas confronté aux tanins, et leur accumulation n'empêche en rien l'installation du champignon mycorhizien. Mais elle prémunit contre d'éventuelles attaques ultérieures. Et vous voyez ici deux mécanismes protecteurs. La présence même du champignon qui, par sa présence, voire par des antibiotiques, peut lutter contre les agresseurs, mais aussi la modification de la plante qui, en présence du champignon, est en quelque sorte prémunie par l'accumulation de composés antimicrobiens et antiherbivores contre d'éventuelles agressions ultérieures. Vous voyez les deux mécanismes, défense directe, défense indirecte. Eh bien, c'est des choses dont vous avez parlé ou dont vous reparlerez à propos des animaux, chez lesquels également la microflore, la microbiote a un effet de protection direct et aussi par la modification de la plante. Mais cette modification, elle prend parfois des allures de tour de magie, regardez plutôt. On va réaliser maintenant une expérience qu'on doit à Maria Pozzo. Je suis désolé, je n'ai pas retrouvé la référence de son papier de Grenade. Sur du tabac mycorhizé ou non, inoculer un agent de pourriture grise, le botrytis. Donc vous voyez, ces plants, ils sont mycorhizés, mais sur leurs racines. Et fort loin de ces racines, sur les feuilles, on inocule un pathogène. Puis on regarde la progression de la maladie. La surprise, c'est qu'alors qu'il s'agit du même génotype, du même clone de tabac, et que l'inoculation est la même, les feuilles de plants inoculées par un champignon mycorhizien par ailleurs, sur leurs racines, ont des dégâts moins sévères que les feuilles des plants non mycorhizés. Pourtant, on est très loin du champignon. Quand on regarde l'expression du gène de tubuline de cet agent de pourriture brune, là, le botrytis, en gros, c'est une façon de regarder la quantité de botrytis qui se développe, on voit que l'infection flambe sur les plantes non mycorhizées alors qu'elle plafonne sur les plantes mycorhizées. On voit bien qu'en termes de développement du champignon, ça ne se passe pas bien si la plante est mycorhizée. Et quand on regarde l'expression des gènes de défense de la plante cette fois-ci, en prenant par exemple une protéase, c'est une enzyme qui découpe les autres enzymes et qui va en particulier découper les enzymes du champignon et l'empêcher donc d'attaquer la feuille, en bloquant son moyen de détruire les cellules. Eh bien, vous voyez que cette défense ici est induite vite et fort chez les plants mycorhizés, alors qu'elle est très peu induite chez les plants non mycorhizés. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'on voit, bien qu'on soit très loin de la mycorhize, on voit que les plants mycorhizés ont une réactivité de leur système immunitaire qui est accrue, et plus à même de les défendre. Une première remarque à faire ici, c'est que la plupart des plantes étant mycorhizées, ça ne nous révèle que le fonctionnement ordinaire d'une plante. Mais ce que ça nous dit, c'est que dans la maturation du système immunitaire, l'établissement d'un système immunitaire fonctionnel, il faut qu'il y ait des mycorhizes pour qu'à un moment, après sa germination, la plante mette en place le système immunitaire adulte d'une plante ordinaire. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi, après tout, ces plantes sont plus réactives ? Et là, j'ai une nouvelle en demi-teinte à vous donner. D'abord, les travaux de Maria-José Pozzo ont un peu défriché la chose. Elle s'est intéressée à quatre composés, l'acide salicylique, l'éthylène, le jasmonate et ici la cystémine, des composés susceptibles des hormones de la plante, que la plante émet quand elle est attaquée et qui sont de nature à déclencher des défenses généralisées. Vous voyez que quand on met des cystémines, la protéine pin-2 ne s'accumule pratiquement pas, l'éthylène non plus, l'acide salicylique non plus. Quand on met du jasmonate, pin-2 s'allume. Ça doit être que c'est le message, l'hormone d'alerte, qui allume le gène pin-2 et qui est responsable des défenses. Bien. Mais vous voyez que ces défenses, pour une même quantité de jasmonate, ces défenses sont beaucoup plus fortement allumées. Alors, il y a un problème de couleur, j'en suis absolument navré. J'ai interverti les couleurs en recolorant la diapo. La plante non mycorhizée répond beaucoup moins que la plante mycorhizée. Les couleurs sont interverties, pardon. Et en fait, les plantes mycorhizées, elles sont en quelque sorte plus capables de répondre à leur propre signal d'alerte. Voilà, donc en fait, l'association mycorhizienne, il y a une sorte de potentialisation de la réponse au jasmonate. Vous allez me dire pourquoi ? Ben ça, on ne sait toujours pas. Mais en tout cas, les plantes sont plus capables de répondre aux signaux d'alerte qu'elles émettent lorsqu'elles sont attaquées en un point. Et donc, elles allument plus vite leur défense. Alors, c'est un peu mystérieux, c'est un peu une boîte noire pour l'instant, les travaux continuent, mais ce qui est assez intéressant, c'est de relire ça à l'aune d'une autre série de résultats. Les résultats que je vais vous présenter maintenant n'ont rien à voir directement avec la protection. Vous allez voir qu'au contraire, ce sont des résultats qui nous expliquent comment la plante se laisse coloniser par le champignon. Mais vous allez voir qu'ils sont intéressants, ces résultats. Ils proviennent d'une étude qui a comparé la quantité de petits peptides sécrétés par des champignons mycorhiziens à d'autres types de champignons qui détruisent de la matière organique ou qui sont pathogènes. Vous voyez que les champignons mycorhiziens ont significativement plus de petits peptides sécrétés, c'est-à-dire que quand ils se développent, ils sécrètent beaucoup de peptides. Et dans certains cas, certains de ces peptides sont même surexprimés, sursécrétés lorsqu'ils établissent des mycorhizes. Alors, une équipe de Nancy a fait un travail qui consiste à rendre fluorescent le petit peptide numéro 7, qui est un peptide d'ailleurs induit dans les mycorhizes. Alors, vous voyez, vous avez une coupe ici de la mycorhize faite par le champignon avec son peptide fluorescent. Vous voyez très bien le manteau de filaments et les filaments qui pénètrent entre les cellules ici. Hein, c'est une ectomycorhize. Bon, et comme le champignon produit des peptides, et bien, il est complètement vert. Et on voit la fluorescence rouge des parois des cellules de la plante. Mais ce qu'on voit d'étrange, c'est qu'il y a un endroit dans une cellule de plante, alors que le champignon ne rentre pas dans ce cas-là, qui est devenu vert. En réalité, le peptide est arrivé dans le noyau. Et vous avez ici une expérience d'incubation de peptides fluorescents, de nouveau, avec des protoplastes de peupliers, c'est-à-dire des cellules végétales débarrassées de leurs parois. On a ici une coloration qui nous montre où est le noyau. Ici, on regarde la fluorescence de ce peptide et on s'aperçoit que c'est au même endroit. Regardez ici, c'est la somme des deux signaux de fluorescence, c'est au même endroit. Un peu plus loin, dans les travaux de cette équipe, c'est quelques années de recherche que je vous résume, ils se sont aperçus, par une expérience de fluorescence bimoléculaire qui permet de savoir, en gros, quelle protéine interagit avec quelle protéine, ils se sont aperçus que MISP7 interagissait avec une molécule du noyau qui est le récepteur du jasmonate. Et en fait, ce qui se passe, c'est que MISP7 désactive le récepteur du jasmonate. Donc, dans la racine, il y a un petit peptide sécrété qui va bloquer la voie de réception du jasmonate et qui fait que localement, les cellules ne se défendent pas. Alors, ça peut paraître confus parce que ce qu'on a dit, c'est qu'ailleurs dans l'organisme, au contraire, les cellules réagissaient mieux au jasmonate. Bon, ça, je ne sais pas vous l'expliquer. En revanche, ce que l'on voit, c'est que localement, des petits peptides sécrétés induisent une compétence, une insensibilité de la racine à la présence du champignon. Ça explique déjà que le champignon s'installe sans être rejeté. Et d'autre part, ça nous montre que les peptides sécrétés peuvent modifier l'expression du gène et aussi le fonctionnement des cellules. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est la porte ouverte à comprendre tous les autres effets phénotypiques, modification de la forme, modification à distance de la, du système immunitaire et de la capacité à répondre vite, parce que je vous ai montré un peptide, mais il y en a des centaines dans les gènes, dans les génomes de ces champignons mycorhiziens. Ce que nous montre ce petit peptide sécrété, c'est que la mycorhize, c'est plus que l'association cellule à cellule, tissu à tissu d'un champignon et d'une plante. C'est que le champignon transfère à la plante des petits peptides qui vont modifier son fonctionnement. Je n'entre pas dans les détails, mais aujourd'hui on sait que les plantes transfèrent des peptides aux champignons qui modifient le fonctionnement de certaines enzymes ou l'expression de certains gènes dans le champignon. Et en fait, la mycorhize n'est pas qu'un tissage cellule à cellule, c'est un tissage moléculaire dans la cellule avec tout un tas d'effets secondaires dont l'un est que cette association défend les partenaires et permet donc, outre la nutrition, une meilleure réponse aux agressions physiques. Je vais terminer cette partie en montrant que la protection affaire aussi aux parties aériennes. Et alors, je vous emmène deux secondes à Yellowstone. Alors, c'est un peu l'enfer pour une plante parce qu'il y a des fumerolles qui peuvent dépasser 50 degrés. Et il y a une petite graminée d'Icantilium qui pousse là. Cette graminée, au niveau de ses feuilles, est densément infestée par un champignon qui est un curvularia. Sans que les feuilles se développent mal, mais néanmoins, il y a beaucoup de curvularia. On peut éventuellement appliquer un fongicide et obtenir une plante sans curvularia. À 40 degrés, une plante sans curvularia ou avec curvularia, vous voyez, se développe à peu près autant, système racinaire et feuilles. Bon, elles ne sont pas très belles parce que c'est des petites graminées. Mais... Maintenant, on monte la température au laboratoire, on passe à 45 degrés. À 45 degrés, commence à faire chaud, la plante se développe moins, en présence de curvularia, elle se développe quand même, mais moins. En absence de curvularia, elle ne pousse plus. On a là une plante qui supporte des pics de chaleur jusqu'à 50 degrés uniquement à cause de son champignon. Inversement, d'ailleurs, le champignon ne supporte pas de croître in vitro au-dessus de 35 degrés et il n'y a que dans la plante qu'il arrive à survivre à des températures supérieures à 40 degrés. Bref, de la tête aux pieds, alors j'ai un écran publicitaire, de la tête aux pieds, la plante n'est jamais seule, mais elle n'est jamais seule. Bon, d'accord, on pourrait dire qu'elle n'est jamais seule et que finalement, ce qu'il faut, ce n'est pas considérer la plante, mais l'holobionte. Tu introduisais cette notion en disant, aujourd'hui, on a tendance à plutôt regarder l'organisme. Et il était justement introduit au début de l'exposé comme un immeuble à micro-organismes qui ne sont pas à la même échelle de temps et de taille et qui donc peuvent habiter les gros organismes. Donc, tant qu'à faire, prenons les gros organismes avec leur masse de microbes, bactéries et champignons. Moi, j'avoue que je n'aime pas beaucoup cette idée, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Parce que je pense que l'holobionte cache la forêt. Alors, à propos de forêt, voilà une forêt corse, une forêt dans laquelle on avait travaillé avec un de mes étudiants en thèse, et qui est une forêt de chênes verts et d'arbousiers. Et vous allez voir qu'à la fin de cette histoire, je vous expliquerai pourquoi je ne crois pas à l'holobionte. Dans cette forêt, Franck Richard, puisque Franck Richard Ilia, c'est lui qui faisait cette thèse, a ramassé des mycorhizes. Il a extrait l'ADN pour, sur la base de l'ADN, typer les champignons présents. Comment on fait ? On amplifie un petit bout d'ADN ribosomal, c'est les méthodes du barcoding que vous avez peut-être déjà évoquées. Pour les champignons, on fait ça sur de l'ADN ribosomal, on séquence ce bout d'ITS, on compare aux banques de données et on dit, voilà, ça c'était l'espèce, ça c'était l'autre, ça c'est une espèce inconnue. Voilà, et on peut savoir d'ailleurs combien d'espèces différentes il y a sur les racines. Sur cet endroit qui était assez homogène en termes de végétation, puisqu'il y avait deux espèces d'arbres, on trouve plus de 520 espèces de champignons qui forment, pour le coup, des ectomycorhizes sur ces arbres. 21% sont sur le chêne vert seulement, 5,4% sur l'arbousier seulement, 70% pratiquement sont sur les deux partenaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut voir l'arbre comme associé à des champignons. Bon. Il y a plusieurs champignons éventuellement. Mais le champignon lui-même, il est associé à plusieurs plantes de la même espèce ou d'espèces différentes. Et en fait, la plupart des champignons ne sont pas spécifiques. Et donc, dans les sols, les plantes sont mises en relation par des champignons parce qu'elles sont voisines et qu'éventuellement, elles ont les mêmes partenaires. Alors vous allez me dire, bon, joli effet de manche. Ben non. En fait, il y a des plantes qui se sont adaptées à l'existence d'un réseau de filaments souterrains qui relient les plantes entre elles. J'ai étudié, lorsque j'étais tout début de ma carrière au muséum, cette orchidée non chlorophyllienne des régions de nos forêts, hein, pour le coup, la néocinie d'oiseaux. On ne savait pas trop quel était le champignon qui était dans la racine, tant qu'on a essayé simplement de les cultiver. Et puis, après, ben, on n'arrivait pas à les cultiver, on ne savait pas ce que c'était. Et après avoir extrait l'ADN, ben, ça, c'est tout simple, c'était des champignons du groupe des Sebacina. Je vous montre ici la structure où ils forment leurs spores. Alors, ce n'est pas des champignons remarquables, hein, mais... Et on ne savait d'ailleurs pas très bien quelle était leur écologie. Mais dans l'étude de ces systèmes racinaires, j'avais repéré qu'il y avait plein de racines d'arbres mycorhizées, des racines ectomycorhizées qui étaient également présentes. Or, sur ces racines, en extrayant l'ADN et en essayant d'identifier le champignon qui était présent, bon, on a trouvé tout simplement, ben, j'ai trouvé tout simplement la même espèce que celle qui était sur les racines de l'orchidée. En fait, cette orchidée partage un champignon avec les plantes voisines et elle rapatrie du carbone par le biais de ce réseau. Et ici, le réseau, il a une réalité biologique. C'est que le partage de champignons a permis à une plante forestière de vivre à l'ombre en rapatriant du carbone du surétage. Je vous montre ici une autre plante qui est une éricacée cette fois, qui est aussi une plante non chlorophyllienne de nos forêts et qui vit de la même façon, en partageant des champignons mycorhiziens avec les arbres, dont elle rapatrie le carbone par le biais de ses champignons. Et je vous montre ici une particularité de ces plantes. Elles ont une teneur spontanée en carbone 13 et en azote 15, deux isotopes du carbone et d'azote, très élevée, beaucoup plus élevée que les plantes vertes qui poussent autour. Bon. Et je vous montre cette particularité qui ne veut rien dire en elle-même, parce que cette plante se nourrit de champignons, ces plantes-là font la photosynthèse. Bon. Mais je vous montre cette particularité parce qu'on s'est intéressé aux plus proches parents chlorophylliens de ces espèces non chlorophylliennes. Vous voyez que, par exemple, la néocinie d'oiseau dont je vous parlais est dans un groupe où apparaissent souvent des espèces non chlorophylliennes, mais un groupe comportant des espèces vertes. Et on se dit, quand on voit un groupe comme ça, où les espèces non chlorophylliennes sont apparues à plusieurs reprises, on se dit, oh là là, mais il n'y aurait pas une prédisposition dans ce groupe-là à devenir non chlorophyllien ? Étudions donc les espèces vertes. Alors, regardons de près ces espèces vertes qui appartiennent, qui sont voisines évolutivement des espèces non vertes. Alors, je vais juste vous le faire avec un groupe d'orchidées, je pourrais vous le faire avec plein d'autres groupes qu'on a étudiés, regardez bien. Regardons ces plantes proches évolutivement des espèces hétérotrophes de tout à l'heure et étudions sur le même site leur teneur isotopique. Ben, mes orchidées vertes, regardez, elles ont des teneurs isotopiques en carbone 13 et en azote 15 qui sont intermédiaires entre celles de plantes chlorophylliennes et de plantes non chlorophylliennes. En fait, elles sont déjà un peu en train de se nourrir du réseau mycorhizien. Et quelque part, dans l'évolution, eh bien, vous n'avez ici que des plantes qui virent à ne se nourrir plus que du réseau. Alors, c'est vrai pour certaines orchidées vertes proches des espèces non chlorophylliennes, c'est vrai aussi pour certaines éricacées, comme les pyrrholes, proches d'éricacées non chlorophylliennes. Ce sont des plantes qui se nourrissent de leur photosynthèse et du réseau. Donc, vous voyez, le réseau, il a réellement un rôle. Je ne vais pas m'étendre plus longuement sur ces travaux qu'on a faits, mais je voudrais vous convaincre, une dernière image pour enfoncer le clou. Sur ces espèces vertes, on voit des fois survivre pendant plusieurs années des individus non verts. Je ne résiste pas à l'envie de vous en montrer un autre. Là, c'est une plante qui est un peu d'anthocyane. Du coup, quand elle perd la chlorophylle, eh ben, elle est un peu rosée. Cette plante-là, on l'a suivie pendant 3 ans. Cette plante-là, on l'a suivie pendant 15 ans. Donc, elles survivent très bien. Et elles nous montrent que ces plantes-là sont vertes, font de la photosynthèse, d'accord, mais elles sont déjà en partie nourries par le réseau mycorhizien. Il y a un réseau qui unit les racines des plantes voisines et qui peut être au moins le site de transfert de nutriments. Et alors là, vous vous dites, mais l'holobionte, il est où ? L'holobionte, c'est de dire que la plante... c'est pas suffisant, il faut lui rajouter ses symbiontes. Par exemple, c'est ces champignons mycorhiziens. Mais on vient de le voir, ces champignons mycorhiziens sont aussi mycorhiziens d'autres arbres ou d'autres plantes autour, qui les aident à se nourrir, qui les aident à se développer, qui d'ailleurs peuvent même faire transiter des choses vers la plante focale par le biais de leurs filaments. Mais ces plantes sont aussi associées à d'autres champignons qui sont importants pour que cette plante se développe et ait tous les effets qu'on vient de dire. Et puis ces champignons sont associés à d'autres plantes. Bon, alors, je vais arrêter, mais vous sentez que c'est en train de prendre en bloc, cette histoire. Quelles sont les limites de l'holobionte ? Ça se voit moins quand ce sont des clones de bactéries qui colonisent deux souris ou deux plantes, mais c'est le même clone, quelque part. Les plantes sont aussi dans des grands réseaux d'acariens protecteurs, des réseaux de pollinisateurs, le même pollinisateur pouvant polliniser plusieurs plantes. En réalité, ce que l'on voit, c'est que le vivant peut être vu comme un réseau. Et ça, c'est une chose assez importante, car au fond, l'holobionte est une façon de sauver la notion d'organisme dans une époque où la notion d'organisme est un peu mise en péril, au sens d'entité autonome, par l'importance que prennent les micro-organismes qui l'habitent. Pour moi, l'holobionte est une façon de sauver l'organisme dans une époque où la science est en train de nous crier que le fait d'importance, c'est l'interaction. Et je dis souvent qu'il n'y a pas d'organisme, mais que des interactions. C'est juste une façon de promouvoir une autre vision du réel, car on peut voir le monde comme étant fait d'organismes. On peut aussi voir le monde comme étant fait d'interactions et dire que l'holobionte est peut-être moins important que le fait que beaucoup de choses interagissent entre elles et qu'il faut de plus en plus, comme tu le disais tout à l'heure, faire de l'écologie pour arriver à comprendre la physiologie. En d'autres termes, on ne sait pas vraiment ce qu'est le monde, nous ne le saurons jamais. Nous avons des représentations du monde. Et tout comme les physiciens savent utiliser une particule ou une onde pour représenter la lumière, eh bien nous pouvons représenter le monde vivant comme étant fait d'organismes. Et ça fait 150 ans qu'on essaie d'en tirer toute la valeur heuristique, toutes les découvertes, toutes les conséquences. Donc c'est bon, on l'a exploré. On peut aussi représenter le monde comme des interactions. Et cette vision du monde comme des interactions et où la recherche d'entités autonomes n'est plus vraiment quelque chose ni de mise, ni vraiment heuristique, eh bien, c'est réellement ce qu'on sent en train d'émerger prodigieusement dans la biologie du début du XXIe siècle. Et c'est ça que je voulais vous dire.